Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et c'est l'émission Vive la Sociale. Ce soir, nous allons discuter des compteurs Linky, des raisons d'Enedis qui ont amené à la mise en place de ce programme, des raisons de s'y opposer, et aussi, puisque nous avons invité plusieurs collectifs, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain. Et nous avons avec nous Damien, Emeline du Nord-Essonne, Anne de Priartem, Patrick toujours de l'Essonne et Nicole de Noisy-le-Sec. Voilà, je vous passe la parole. Vous présentez rapidement Damien.
Oui, donc Damien du collectif Stop Leakinder 91. Donc le collectif a un an et demi, deux ans. Et du coup, il regroupe un certain nombre de personnes de différentes communes en Essonne. Et il y en a de plus en plus qui nous rejoignent au fur et à mesure.
Anne, vous voulez dire un mot pour vous présenter là
Oui, bonsoir. Anne de l'Association nationale Priartem. Priartem signifie pour rassembler, informer, agir concernant les risques des technologies électromagnétiques. Et donc c'est au sujet donc de nos préoccupations par rapport aux courants porteurs en ligne utilisés avec la technologie Linky que nous nous sommes penchés sur ce sujet. J'essaie d'être un peu clair.
Bonsoir aux éditrices et auditeurs de FPP. C'est Patrick Bellard, président de l'association ARRP hier dans l'Essonne. Association qui a une existence de deux ans et demi, pas plus maintenant, et qui depuis son existence se milite et se positionne contre le déploiement des compteurs Linky et tout compteur communicant.
Et Nicole ?
Bon, ben moi, outre le fait que vous me connaissez sur cette émission, je fais partie du collectif anti-Linky de Noisy-le-Sec.
Voilà, on va commencer tout d'abord par la définition du cadre de l'installation de ces compteurs. Nicole, est-ce que tu peux commencer à nous donner quelques éléments ?
Oui, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, le Linky, c'est un compteur c'est le nouveau compteur d'électricité que la société Enedis est en train de poser. C'est un compteur qui est prétendu être communicant, il y en a même qui osent dire intelligent, en fait, et que certains disent plus justement capteur. Parce que sa capacité et sa différence avec le compteur actuel, c'est le fait de pouvoir transmettre des données sur des données relatives à la consommation d'électricité. Donc, d'abord un mot sur Enedis. Enedis étant la société, la filiale d'EDF qui est chargée et qui a décidé de l'implantation et du déploiement de ce compteur. Donc, Enedis, c'est une société qui a été créée en 2008. Après l'ouverture du marché à la concurrence, du marché de l'énergie à la concurrence en 2007. Elle s'appelait avant ERDF. Et c'est une société anonyme, donc à conseil de surveillance, donc c'est une société de droit privé. Mais elle est filiale donc à 100% d'EDF, qui elle-même est devenue une société anonyme, tout bien, qui est entrée en bourse, mais qui reste étatisée, puisqu'elle est détenue à 84% par l'État. Donc on est quand même dans une situation. Et précision, Enedis est une des trois sociétés qui ont été créées au moment du passage à la fin du monopole, donc la privatisation de la fourniture d'énergie. Mais Enedis est en position de monopole de la distribution. RTE est chargé du transport d'électricité, des grandes lignes, la gestion des lignes à haute tension, mais Enedis est en situation de monopole. Donc on est dans une situation où c'est une société de droit privé qui est couverte, enfin, dont l'actionnaire principal est l'État en pratique, et donc qui a aussi l'appareil d'État derrière elle. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Enedis s'est permis de décider, sans aucune concertation publique, sans aucun débat, de mettre en place ce compteur dit communicant. Alors, c'est une décision qui remonte à 2008. C'est intéressant de le savoir parce qu'ensuite il se prévaut d'une directive européenne, mais la directive européenne date de 2009. Donc cette intention de déploiement, elle est bien propre à Enedis. Alors, il y a eu une phase d'expérimentation en 2011 qui s'est faite en Indre-et-Loire et en région de Lyon. Et la généralisation de ce Linky a été décidée par décret en 2012. Et son achèvement, l'achèvement du déploiement est prévu en 2020. Bon, ça c'est le calendrier officiel. Maintenant, on va bien voir que ça présente des tas de problèmes parce qu'il se heurte à une opposition de plus en plus sérieuse. Actuellement, sur les 35 millions de compteurs qui sont prévus à la pose, il y en a à peu près 7 millions, on pense, qui sont déjà posés, donc sur l'ensemble de la France. Alors, comment Enedich justifie son choix? Parce qu'en fait, il a imposé un choix à l'ensemble des Français sans aucune concertation, et on va s'apercevoir qu'effectivement, dans la discussion, que ce compteur Linky pose toute une série de problèmes et soulève énormément de positions. Bon, Enedich justifie son déploiement, son choix, en disant « Ah, bah, de toute manière, c'est la loi sur la transition énergétique qui l'impose. » Ce qui est faux, parce que les termes de cette loi ne préconisent pas du tout ce type de compteur. Elle préconise effectivement la mise à disposition des données, mais elle n'impose pas du tout cette implantation-là, et surtout de la technique au CPL. Donc c'est bien, en tout cas le choix technique relève uniquement d'Enedis. D'autre part, la directive européenne dont il se prévalent, elle reste assez floue dans ses recommandations, et elle laisse une large part d'interprétation en fonction de la praticabilité technique et financière. Elle laisse une large interprétation aux États. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment des arguments. Il faut quand même le dire, parce que ça fait partie de la propagande interne à Enedis, y compris chez les salariés, surtout chez les salariés. Ce discours, c'est de toute manière, c'est la loi de transition énergétique qui le veut. De toute manière, c'est l'Europe qui nous l'impose. C'est le discours dominant qui fait qu'on évite de se poser des questions à l'intérieur, enfin, disons, dans le petit monde ou dans le grand monde d'Enedis. Voilà.
Merci Nicole. Oui, alors je voudrais juste revenir sur deux trois choses qu'a évoquées Nicole, effectivement, pour que ce soit clair dans l'esprit des auditeurs, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les néophytes. Nous, c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps qu'on se penche sur ces questions-là, mais c'est vrai que pour un usager qui ne s'est jamais vraiment préoccupé de son compteur, il peut y avoir confusion entre EDF, ERDF, Enedis. Donc tu l'as expliqué, mais c'est peut-être effectivement, je reviens un petit peu dessus, parce que ça va vite, il y a eu beaucoup d'informations. Les gens ERDF et Enedis, c'est la même chose. Enedis a changé de nom, ça a eu un coût aussi de plusieurs millions d'euros, a changé de nom donc en juin, le 1er juin 2016. De même que GRDF est devenu Engie. Voilà, c'est la même logique. Bon. Donc, concernant l'électricité, ERDF est devenu Enedis. Effectivement, comme tu l'as dit, Nicole, c'est ERDF, Enedis, donc, qui amène l'électricité vers tous les foyers de France. Et ensuite, chaque foyer est libre, là, parce qu'il n'y a pas monopole pour la fourniture d'énergie. Donc, chaque foyer est libre d'avoir un contrat de fourniture d'énergie auprès d'EDF ou de Direct Énergie, d'Enercop, d'Engie ou d'autres, ou l'Empiris, enfin ex-Lempiris. Donc ça, c'est quand même important parce que les gens ne comprennent pas toujours non plus à qui ils doivent s'adresser dans leur courrier. Donc c'est pour les courriers de refus, dont nous parlerons plus tard de cette possibilité, c'est bien à Enedis qu'il faut envoyer les refus. Par rapport au process qui a mené effectivement à cette loi de transition énergétique qui a imposé des compteurs communicants destinés à accompagner les usagers dans la maîtrise de leur énergie, de leur consommation énergétique en France. Effectivement, on nous dit, le discours officiel, c'est de nous dire, c'est comme ça, ça découle d'une directive européenne. Et effectivement, la directive européenne, elle, laissait la possibilité à chaque État membre de mener une étude technico-financière sur son territoire. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne, puisqu'elle a donc commandité une analyse auprès du cabinet indépendant Ernst & Young. Et effectivement, il a été conclu que ce n'était pas intéressant de faire un déploiement généralisé auprès de tous les foyers qui parfois sont de petits usagers. Voilà. En France, étonnamment, cette étude technico-financière, elle n'a pas été menée suite à la directive européenne, elle avait été menée déjà avant, en 2007. par Capgemini Consulting. Voilà, Capgemini. Voilà.
Oui, Patrick.
Oui, je voudrais un petit peu complémenter ce qui vient d'être dit par Nicole et par Anne. En fait, oui, au départ, le discours récurrent d'Enedis, c'était la directive européenne, c'est la Commission européenne, c'est l'Europe. Et souvent, on entend ce discours dans tous les domaines en disant que l'État français est fédéré à Bruxelles. Et ça a tellement été bien dit et acquis que quelqu'un s'est quand même penché sur la question et a pris la peine d'écrire à Monsieur Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, comme chacun le sait. Et ce monsieur a répondu dans une lettre dont je vais vous citer un passage, en date du 11 août 2017, donc c'est assez récent, et qui confirme bien ce qui vient d'être dit. Donc un simple passage, en ce qui concerne la portée et l'exhaustivité de l'évaluation économique du déploiement des compteurs intelligents en France par les autorités nationales, je vous prie de noter que les États membres ont toute latitude pour statuer sur ces questions. Il s'agit par exemple des scénarios envisageables, à savoir le caractère obligatoire ou facultatif du déploiement sur le territoire, le remplacement éventuel des compteurs existants ou la possibilité pour le consommateur de ne pas adhérer au système ou de le faire plus tard. Bon, venant de M. Juncker, qui est quand même une autorité reconnue, ça montre bien que l'argumentaire de Enedis est battu en brèche. Et déjà, cet argumentaire au niveau européen étant battu en brèche, après, il suffit de se pencher sur effectivement la loi de transition énergétique et la croissance verte, la LTECV. Et là-dessus aussi, Enedis nous a asséné que c'était aussi la conséquence de la directive européenne. Ce à quoi, pareil, tout le monde s'est acquis cela, mais quelqu'un a posé une question à Madame Ségolène Royal par un courrier du 21 avril 2017, la réponse de Madame Ségolène Royal a été assez ferme, et j'en citerai un exemple tout à l'heure pour redonner la parole autour de la table, que il n'y avait aucun avantage pour l'usager, que les manières utilisées par Enedis et consorts et sous-traitants étaient inacceptables. Et cette lettre a été adressée à M. Philippe Mouloubou, qui est le président du directoire de Enedis, donc le chef d'orchestre de cette vaste opération commerciale et autres sur le Linky.
Bon, on continue en essayant de faire le point sur les arguments techniques avancés par Enedis pour justifier son déploiement.
Oui, parce que en fait, bon, voilà, on voit bien que là, il y a fausseté sur le discours juridique et tout, mais on pourrait se dire il y a une certaine logique défendable peut-être par rapport à Enedis. Alors évidemment, Enedis dit ce compteur communicant est indispensable pour avoir une meilleure gestion du réseau électrique, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Alors ça, bah, évidemment, ça n'est pas vrai, comme l'a dit Anne. Je veux dire, l'exemple allemand est là pour nous parler. Je veux dire, où il déploie où la transition énergétique est largement plus avancée que chez nous, puisqu'il y a un déploiement des énergies renouvelables bien plus avancé. Et les Allemands ont renoncé au déploiement systématique chez les particuliers de ce compteur. D'autre part, des associations comme Negawatt ou comme Leclerc qui travaillent sur les énergies renouvelables, sur des scénarios alternatifs, ils ont montré qu'un seul capteur par quartier serait largement suffisant pour obtenir les informations nécessaires pour cette nouvelle gestion. Donc on voit bien que ça aussi c'est des faux arguments. L'autre argument, c'est qu'il permettrait une meilleure gestion de la consommation par le consommateur. Alors évidemment, ça c'est évidemment faux, parce que d'abord, on peut très bien surveiller sa consommation si on est sensible à cette question sans avoir besoin d'avoir un petit indicateur qui vous dit à tout moment. Mais en plus, je veux dire que le consommateur, à travers le compteur Linky, n'a pas accès directement à ces données. Donc c'est même pas vrai. Il faut qu'il fasse une demande spécifique et qu'il passe par Internet pour avoir une interface. Enfin, bon. Et en plus, il y a effectivement des essais qui ont été dans des bouts d'enquête qui ont été faits pour voir si effectivement le fait de connaître sa consommation à tout moment, je veux dire, vous aide à baisser votre consommation. Et il s'avère que c'est non. Enfin, je veux dire, on passe pas son temps à aller regarder une courbe de charge chez soi. On y est peut-être attentif pendant un mois ou deux au départ quand on vous a dit que vous êtes sur test, mais bon, c'est pas du tout concluant. Donc ça c'est vraiment pas des arguments qui tiennent la route. Mais par contre, il y a des motivations bien réelles, et c'est celles qui sont évidemment pas avancées. Tu voudrais dire quelque chose de
plus? Avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait nécessaire d'expliquer ou de réexpliquer aux auditeurs, enfin, peut-être que tout le monde ne comprend pas bien comment ça fonctionne à Linky. Maintenant, on a compris que c'était la nouvelle génération de compteurs communicants d'électricité. Mais il faudrait expliquer un petit peu l'environnement Linky. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que le compteur qui est problématique. Hein. Linky, en fait, donc c'est un compteur qui est installé dans le foyer, qui communique avec un concentrateur. Le concentrateur est installé dans le transformateur de quartier. Et ce compteur, donc, ainsi que tous les compteurs des foyers reliés au même concentrateur, vont communiquer par le courant porteur en ligne, ce qu'on appelle plus communément CPL, le courant porteur en ligne, avec des fréquences donc qui ne sont pas les mêmes que la fréquence de l'électricité. C'est notamment ce qui est problématique, puisque l'électricité, c'est du 50 Hz. Et sur le réseau électrique habituellement donc conçu pour véhiculer du 50 Hz, eh bien, on va superposer à ce 50 Hz des radiofréquences en kilohertz, voilà, comprises entre 60 et 90 kHz. Voilà, pour rappel, 1 kHz, c'est 1000 Hz. Voilà. Donc on passe du 50 Hz à 75 kHz, sachant que on peut rajouter sur l'électricité une radiofréquence, deux radiofréquences, trois radiofréquences, voire beaucoup plus, puisque on va dire les choses au fur et à mesure, mais la première génération de compteur Linky, le G1, permet de juxtaposer à l'électricité trois radiofréquences. On en est déjà au G3 qui permet, alors ça, Patrick, tu pourras nous le confirmer, moi, dans mon esprit, c'est 12 radiofréquences, mais apparemment, c'est beaucoup plus. Voilà, ça, tu pourras le confirmer, mais déjà, on voit que on a un système évolutif, c'est-à-dire qu'au début, on parle d'une chose, et puis en fait, avec le temps, cette chose, elle évolue, c'est déjà plus la même. Et donc, le compteur Linky est relié au concentrateur et transmet ses informations, donc le concentrateur interroge le Linky et interroge chacun des Linky avec lesquels il est connecté. Donc c'est une transmission concernant nos consommations d'énergie. Ces informations sont stockées donc dans le concentrateur, puis elles sont transmises à un central Enedis via les ondes de la téléphonie mobile, puisque dans chaque concentrateur, donc dans chaque transformateur de quartier, va être installée une antenne. Du coup, une antenne pour communiquer les données aux centrales Enedis.
Il y a combien de concentrateurs qui sont prévus ?
700 000.
Moi, voilà. C'est le chiffre que j'ai en tête. Maintenant, Patrick, qui est vraiment le technicien, pourra nous le confirmer. Voilà. Moi, dans mon esprit, c'est 700 000. Donc là, j'ai, je pense, parce que chaque configuration est différente, mais ça peut être notamment très problématique dans le cadre, imaginons, une copropriété ou un bâtiment HLM avec en rez-de-chaussée le transformateur du quartier, donc dans lequel sera placé le concentrateur, donc sur lequel sera mise l'antenne relais de téléphonie mobile, et les différents Linky, soit de l'ensemble du bâtiment, soit des habitants du premier étage, mis derrière une cloison mitoyenne, la chambre de quelqu'un ou la cuisine. Donc ça fait quand même, ça charge beaucoup l'environnement. Voilà. Donc quand on parle d'exposition électromagnétique, on ne parle pas que du compteur, on parle du courant porteur en ligne dont il apparaît, et ça je pense que Patrick aussi reviendra dessus, dont il est apparu lors des études, des mesures faites par le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Études qui a été menée tardivement, hein, alors que le déploiement en France avait déjà bien commencé. Donc d'abord on installe et puis après on se demande quel effet éventuellement ça peut avoir. C'est assez étonnant. Et donc les mesures du CSTB ont constaté qu'il y a une activité quasi permanente des radiofréquences avec le courant porteur en ligne. Et comme nos habitations, enfin nos réseaux électriques n'ont pas été conçus à l'origine pour accueillir de telles technologies, et qu'il n'y a pas de filtre en plus posé sur les compteurs, eh bien si vous, vous refusez le compteur, mais si vous êtes sur la même grappe, forcément, vos voisins sur la même grappe que des foyers qui, eux, seront équipés en Linky, eh bien on constate que le courant porteur en ligne va remonter sur le réseau électrique de votre habitation. Voilà.
Oui, je voyais quelque chose sur le plan technique.
Alors, on va essayer de ne pas trop noyer dans la technique, hein, ce n'est pas le but de l'émission. Effectivement, Anne a soulevé une petite phrase qui a peut-être pu paraître anodine. Elle a parlé de radiofréquence et elle a parlé également de CPL, donc courant porteur en ligne. Donc, on peut dire quelle est la relation entre courant porteur en ligne et onde radiofréquence. Les anglo-saxons appellent le CPL, courant porteur en ligne, en Power Link Communication. Déjà, le mot power, traduit littéralement en français, veut dire puissance. Donc déjà, cette notion de puissance par rapport à un mot courant porte plus. En fait, Enedis, et j'en étais le témoin direct lors d'une réunion animée avec Enedis, a longtemps été dans le déni. Ce n'est pas que sur ce point-là, mais sur le déni, en disant que le courant porteur en ligne n'était pas des radiofréquences. Et face à tout simplement des documents, la plupart des collectifs, des associations, aujourd'hui, nous sommes des néophytes, il y a certes peut-être des professionnels de tous les corps de métier, hein, du monde médical, du monde juridique, du monde de la technique, du monde de la finance, mais on est avant tout des consommateurs et des citoyens, et on est passé de consommateurs à conso-acteurs. Et c'est vrai qu'au départ, cette notion de radiofréquence, après leur avoir mis sous le nez des documents officiels, provenant par exemple de l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme mondial basé en Suisse et qui gère l'ensemble des bandes de fréquences qui font jusqu'à de quelques hertz à quelques centaines de gigahertz, ils ont été contraints d'admettre qu'effectivement c'est des radiofréquences. Et je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eue avec une personne de Enedis, ingénieur télécom, donc je ne peux pas prôner sa carence de professionnel. Après lui avoir démontré que c'était bien les radiofréquences, elle m'a avoué, elle me dit « Oui, ce sont des radiofréquences, mais elles ne reviennent pas beaucoup. » Voilà, donc c'était déjà un pas important. Et aujourd'hui, effectivement, Enedis admet ou communique, hein, j'ai vu des papiers, on parle bien de radiofréquences. Les radiofréquences, c'est quoi? C'est exactement ce que, à travers le moyen qui vous permet aujourd'hui de m'entendre, de m'écouter, j'espère de le comprendre. Ce sont la bande FM, c'est la téléphonie mobile, c'est le Wi-Fi, enfin tout ce qui rayonne. Ces ondes de radioélectricité ont été mises en évidence vers 1894 par un certain monsieur Hertz, et puis après vous avez Faraday et autres. Donc aujourd'hui, on a bien cette notion de radiofréquence. Certes, ces radiofréquences utilisées par le compteur communicant, et qu'on appelle pudiquement CPL, ne fonctionne pas directement à partir d'une antenne comme vous l'avez pour la téléphonie mobile ou pour l'antenne par exemple de FPP comme actuellement. Mais elles sont sur des câbles. Mais par contre, ça pourrait nous rassurer. Cependant, les câbles aujourd'hui sont pas des câbles blindés. Et le principe de la radioélectricité, c'est qu'un courant alternatif qui est émis dans un conducteur électrique va générer des champs électriques et des champs électromagnétiques. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les rayonnements. Ce qui permet de propager. Donc là, aujourd'hui, c'est effectivement, imaginons que les technologies, si les habitations au niveau des installations électriques, dont la vocation est de distribuer l'électricité dans les habitations, les bâtiments industriels ou autres, s'ils avaient été prévus avec des câbles blindés, pourquoi pas que le signal CPL puisse transiter en superposition du courant. Mais ce n'est pas le cas et cette technologie n'est pas nouvelle, elle est utilisée à partir des années 1920-1930, mais sur des usages tout à fait simples, tout à fait, disons, basiques, et pas avec une intensité des fréquences plutôt élevées, même si ça reste des très basses fréquences, et des niveaux de rayonnement importants. Donc là, aujourd'hui, ces technologies aurait pu faire l'objet effectivement d'une étude préalable, sachant que depuis aussi l'ensemble des ondes radiofréquences sont classées quand même cancérigènes possibles pour l'homme par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, catégorie 2B. Donc là, on est en face aussi d'une profusion de radiofréquences le Linky, il n'y a pas de bonnes ondes et de mauvaises ondes. Le Linky n'est pas quelque chose à bannir à tout prix au niveau radiofréquence. Mais l'accumulation des radiofréquences, de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, des téléphones sans fil domestiques, des ECT, dans des environnements confinés, donc les appartements, les lofts, etc., fait qu'on arrive à, effectivement à une forme de pollution électromagnétique comme il en existe au niveau maintenant, au niveau des pollutions atmosphériques. Et cette technologie-là, on aurait pu très bien s'en passer puisque Nedis aurait pu très bien utiliser la téléphonie mobile ou la DSL plutôt, ou plutôt la téléphonie toute simple, puisque dans chaque foyer aujourd'hui, on a au moins une téléphonique.
Voilà. Oui, moi je voulais juste souligner... Effectivement, par rapport à ce rayonnement, nous, pour nous, ce qui est vraiment très problématique, c'est l'aspect chronique de l'exposition. L'aspect chronique de l'exposition, c'est-à-dire que une fois le Linky mis en place et activé, une fois le système déployé, l'exposition, c'est tout le temps. Voilà, c'est à l'école, c'est dans la rue, c'est à la maison, c'est tout le temps. C'est la nuit, c'est le jour. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment très, très problématique. On est en train de déployer un système dont on n'est pas sûr de l'innocuité.
On pourrait assimiler ça, Anne, d'ailleurs, au tabagisme passif. Hein. C'est un peu la même, ce que disait Anne tout à l'heure. Si vous n'avez pas le compteur Linky chez vous, mais que vos voisins ou le reste des habitants d'une copropriété le long, vous serez soumis aux mêmes effets de rayonnement que les principaux possesseurs de ce compteur. Donc, il y a beaucoup d'analogies entre tabagisme passif ou pollution atmosphérique et pollution électromagnétique. Et ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte, même si l'exposition c'est vrai qu'elle est permanente. Là aussi, on était dans le déni pendant un moment, mais avec les mesures qui ont été faites par l'Agence nationale des fréquences ou le Comité scientifique des techniques du bâtiment, CSTB, sous demande de l'ANSES, rapport complémentaire publié en juin 2017 démontre qu'effectivement la quasi-permanence des signaux CPL dans tous les câbles électriques, au plus profond même quand les lampes sont éteintes, et deuxième chose, sur des niveaux certes qui sont bas par rapport aux normes, et on pourra y revenir par rapport au seuil, mais on est dans une exposition permanente. Et à la différence près, c'est que vous ne pouvez pas vous y soustraire, contrairement à une téléphonie mobile que vous pouvez supprimer ou couper, ce qui est conseillé la nuit, ou couper le Wi-Fi, ou vous éloigner. Là, vous ne serez jamais à distance suffisante pour vous préserver de ce type de rayonnement, dont les effets basse fréquence, je reviendrai tout à l'heure sur une citation d'un document officiel, sont connus.
Oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter. Alors, je ne trouve pas mes papiers sur les mesures, mais Enedis compare les mesures qui ont été prises à un grille-pain, à une télévision, etc. Et moi, je trouve très important d'en parler parce qu'effectivement, comme disait Anne tout à l'heure, c'est l'exposition perpétuelle au courant porteur en ligne qui peut nuire à la personne et ce n'est pas un problème de puissance. Le grille-pain, vous passez pas toutes 24 heures sur 24 à côté de votre grille-pain, ni de votre télévision, ni rien. On est bien d'accord. Donc ces comparaisons que fait Enedis ne tient pas la route. Et le problème, c'est qu'effectivement, il s'adresse souvent à des personnes qui ne connaissent rien là-dessus. Et il y a beaucoup d'abus sur ces discours.
Voilà. Je crois que ce qui est important aussi de souligner, c'est que dans les arguments d'Enedis et de ceux qui les acceptent, je pense au maire de la commune où j'habite, qui dit « Oh, finalement, c'est rien, vous avez un téléphone portable, alors qu'est-ce que vous voulez ?» Ils ne tiennent jamais compte des effets cumulatifs de l'ensemble des expositions aux ondes électromagnétiques, quelle que soit la source, quelles que soient les fréquences. Et malheureusement, cet aspect des choses, on le voit à l'intérieur des maisons avec le compteur et on le voit dans la pollution d'ensemble de l'espace urbain, notamment avec les concentrateurs.
Oui, je voulais dire non seulement cumulatif, mais à un autre niveau, parce que vous pourriez très bien aussi avoir des gens qui maintenant ont le compteur Linky installé, puis qui vous disent « Oh, mais j'ai rien, moi, tout va bien ». Alors moi, j'ai envie de dire « Oui, tout va bien pour l'instant, mais dans 10 ans, quand sera-t-il » On voit qu'en effet, maintenant, les personnes qui sont aujourd'hui malades des ondes sont pas malades des ondes parce qu'elles ont une exposition forcément forte sur un moment, mais souvent, c'est parce qu'il y a une exposition dans la durée. En tout cas, si je veux parler de mon cas personnel, puisque je suis malade des ondes, semble-t-il, je suis malade aujourd'hui parce que j'ai vécu pendant 10 ans au-dessus d'un transformateur électrique. Donc, et la révélation de ma maladie s'est fait 10 ans après la fin de l'exposition. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va, en fait. Voilà.
Tu voulais rajouter quelque chose ? Ou on se fait une petite pause musicale ?
Oui, on se fait une petite pause et puis on... voilà.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est toujours Vive la Sociale. Nous discutons du compteur Linky et nous avions abordé la question des ondes. Là, on va continuer sur la question des ondes, justement, hors antenne. Qu'est-ce qu'on disait là sur...
Alors oui, on disait qu'effectivement, tous les mots ne viennent pas du courant porteur en ligne. Il faut rester aussi pragmatique et factuel. Mais l'accumulation aujourd'hui des ondes de tous bords, hein, téléphonie mobile, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Wi-Fi, fait qu'on ait des cocktails. Et cette pollution électromagnétique, elle est invisible. Elle est un peu comme la pollution atmosphérique. D'ailleurs, un des points sur le rapport, s'il fallait retenir qu'une petite phrase du Conseil supérieur des techniques du bâtiment, suite à la demande de l'ANSES, à la fin, les termes sont importants, le CSTB recommande pour les personnes qui le souhaiteraient, de mettre des filtres. Alors quand j'ai vu ça, il n'y a pas de pollution électromagnétique, il n'y a pas de risque, il y a innocuité, dixit enedis, mais mettez un filtre. Alors moi, je fais une petite analogie, par exemple, par rapport à la pollution atmosphérique. Il n'y a pas de pollution atmosphérique, mais mettez un masque. Voilà. Donc déjà, on commence à être un peu dans le principe, non pas de précaution, parce qu'on est au-delà, mais on est dans l'aspect, disons, palliatif, et ça veut dire qu'il y a déjà une source. Alors pourquoi aussi Enedis dit qu'il y a innocuité au niveau des ondes, ce que reprend l'ANSES ? L'ANSES dit qu'il n'y a pas d'effet à court terme connu. Ben oui, bien sûr, puisque Linky n'existait pas avant. Donc il faut quand même être logique dans la chose. Mais par contre, sur les effets à long terme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet à long terme. Et j'ai sous les yeux quelque chose que je vais lire, mais rapidement, et je vais vous donner la source. C'est un document officiel du ministère de l'Écologie, l'Environnement en France, l'édition 2014. Je peux même vous citer la page, c'est la page 244, et qui parle du cas des champs de fréquences extrêmement basses. Et qui dit « Les effets à court terme des champs ELF, extrêmement basses, c'est à peu près la bande dans laquelle travaille le Linky, sont connus et bien documentés. Les valeurs d'exposition sont plus basses que les normes, ça bien sûr. En ce qui concerne des possibles effets à long terme, il existe une forte convergence entre les différentes évaluations des expertises internationales qui se maintiennent dans le temps, alors qu'aucun élément probant chez l'adulte n'est disponible, une association statistique entre exposition aux champs magnétiques ELF et leucémie infantile a été observée par différentes études épidémiologiques. Je termine. Par précaution, une expertise de l'AFSET, qui était maintenant l'ANSES, sur les effets sanitaires de ces champs électromagnétiques rendus publics en avril 2010, recommande de ne pas installer de nouveaux établissements accueillant des enfants ou des femmes enceintes à moins de 100 mètres des lignes très haute tension. Donc là, on est dans les lignes très haute tension, direz-vous. Effectivement, ces phénomènes sont connus. Mais le Linky étant beaucoup plus faible, mais dans un environnement beaucoup plus confiné, on peut effectivement associer ces phénomènes. Donc, encore une fois, il n'y a pas innocuité. Et effectivement, le principe de précaution, comme c'est prévu dans la charte d'environnement, devrait être mis en place pour permettre d'éviter, disons, des catastrophes futures.
Anne.
Oui, alors je voudrais revenir sur deux choses. Avant la pause musicale, Isabelle évoquait des personnes qui ont eu le Linky installé. Je me suis trompée de prénom, pardon. Évoquer donc des personnes qui ont eu le Linky installé et qui ne constataient pas de modification dans... pour elle, rien ne se passe. Moi, j'ai en tête deux choses. D'une part, sur ma ville, des compteurs Linky qui ont été installés. Mais le déploiement n'a pas débuté encore, c'est-à-dire que les concentrateurs ne sont pas encore en place dans les transformateurs de quartier. Et donc le système CPL n'est pas efficient, n'est pas activé. Donc on pense, finalement j'ai le Linky, puis il ne se passe rien, donc tout va bien. Mais c'est qu'en fait, pour le moment, le système ne fonctionne pas. Pour le moment, le compteur Linky n'a pas déployé toutes ses fonctionnalités. Ce n'est pas encore un capteur, c'est juste un compteur. Et juste pour finir, avant qu'Emeline ne reprenne la parole, la seconde chose, c'est que Patrick évoquait le rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il faut bien lire tous les mots du rapport, puisque effectivement, l'expertise est rendue dans l'état de configuration, dans la configuration actuelle. Et ce qui est très important dans le Linky, c'est que c'est un système évolutif. Donc aujourd'hui, si on mène une étude sur le G1, sur la première génération de Linky, on en tire certaines conclusions. Mais ce système évolue puisque avec le G3, donc Patrick, combien de radiofréquences?
Alors que ce soit le G1 ou le G3, ces deux technologies travaillent dans la même bande de fréquences, qui est une bande entre 35 kHz et 95 kHz. C'est toujours pareil, c'est pas n'importe quelle bande de fréquence, elle est classée dans l'Union internationale des télécoms. Et le G3 travaille sur un peigne de fréquences, de 36 fréquences, ce qu'on appelle les sous-porteuses en technologie. Ça serait, je dis bien, ça serait assimilable un petit peu à la technologie 3G. Ce n'est pas tout à fait le même type de signaux, mais dans le principe, c'est-à-dire qu'on arrive à envoyer des signaux simultanément sur plusieurs, comme un peigne en fait. Imaginez que chaque dent du peigne soit un signal.
Voilà, Emeline, tu voulais rajouter quelque chose ?
Moi j'ai deux choses à dire, toujours par rapport aux ondes et aux problèmes de santé, pour signaler un appel du docteur Michel Utti, qui est diffusé dans midilibre.fr, qui se pose la question, mais pourquoi n'applique-t-on pas le principe de précaution ? Et elle disait, donc, c'est écrit dans cet article, ce n'est peut-être que potentiellement dangereux, mais c'est déjà suffisant, de mon point de vue, dit-elle, pour respecter un principe de précaution. Donc, je voulais rappeler ses propos, c'est quand même un médecin qui s'intéresse à cette problématique. La deuxième chose que je voulais signaler, alors je vais sortir un petit peu de ce problème de santé, c'est effectivement sur le fait que le courant porteur en ligne n'est pas forcément en fonctionnement dès l'installation du compteur Linky, mais peut-être quelques temps après. Donc, ce qui peut expliquer que va pas forcément y avoir de problème d'appareil qui tombe parfois en panne ou de problème d'incendie dans l'immédiat, mais il faut bien se rendre compte aussi que des incendies, il y en a qui se sont déclenchés quelques semaines ou quelques mois après, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, nos réseaux électriques ne sont pas prévus pour recevoir ce CPL. Mais ceci dit, même la plupart des incendies qu'on a rapidement, ce sont quand même ceux des compteurs eux-mêmes.
Pour la question des incendies, moi je n'ai pas d'éléments de réponse, aucune certitude à ce sujet, mais par contre je constate que de plus en plus d'associations maintenant tiennent un inventaire des incendies répertoriés et essayent de savoir effectivement s'il s'agit de Linky ou d'un compteur plus classique. Voilà.
Voilà.
Puisqu'on est dans les questions d'incendie, signalons par exemple qu'à Noisy-le-Sec, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un compteur Linky qui avait été posé de force contre l'avis des occupants qui a pris feu. Ouais. Et quelques mois donc après sa pose.
Ah, quelques mois.
Bon, là je crois qu'on a fait le tour de la question des ondes. Avant de passer à d'autres sujets, je crois que ça serait important de faire le point sur les raisons qui ont poussé Enedis à mettre en place un système qui, on le voit bien, est assez dangereux.
Oui, parce que quand on demande pourquoi n'observe-t-on pas le principe de précaution, c'est peut-être qu'il y a des raisons plus puissantes qui font qu'effectivement on choisit ce genre de technologie en se foutant de la santé de la population, ou en tout cas en ne faisant rien pour savoir quels sont les risques qu'on va imposer à la population. Bon, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est que ce compteur est aussi un capteur de données, enfin que ce système de CPL dont on a parlé est fait pour capter vos données de consommation. Elle vous permet, dans la mesure où le courant pénètre dans tout votre système électrique, ça permet de savoir qu'est-ce que vous avez comme appareil, à quel moment ils sont branchés, donc quelles sont vos habitudes de consommation. Et les habitudes de consommation, ça fait partie des données, ça fait partie qui se vendent.
Hein,
et comme l'a reconnu benoîtement le président d'Enedis lui-même, Enedis se place sur ce qu'on appelle le marché du big data, et c'est effectivement sa motivation la plus puissante, sans doute. Il n'y a pas, sans doute pas que ça, parce qu'il y a effectivement à la clé quand même des suppressions d'emplois massives, puisque c'est une technique qui permet de faire de la relève de consommation à distance, donc d'éviter d'envoyer des releveurs, et éventuellement au passage aussi de supprimer les fraudes, question qui n'est jamais abordée.
Oui, il y a en complément, il y a ce marché des métadonnées, des big data, mais il y a aussi le fait que le Linky soit présenté comme la première brique du système de l'Internet des objets. Voilà. Donc c'est l'élément qui va permettre le déploiement de communication entre vos objets. Ça va être le réfrigérateur, la cuisinière, enfin des objets qui aujourd'hui ne consomment pas d'énergie électrique. Hein, je veux dire, certains oui, mais certains non. Et on va voir se développer donc une offre de produits, des fabricants qui vont avoir leurs appareils conçus pour être compatibles en fait avec le Linky. Et donc quelque chose comme, je ne sais pas, une cocotte minute ou un grille-pain, des objets qui à la base ne nécessitaient pas d'énergie électrique vont être énergivores. Et donc là, c'est vrai que Leclerc avait mis cette problématique en évidence. On peut s'interroger sur l'apport du Linky à la transition énergétique.
Oui, un des arguments que tu avais abordé tout à l'heure, Nicole, c'était le côté environnement, développement durable du compteur Linky. Donc d'ailleurs, c'est une des conditions qui est soulignée par l'Europe, c'est que ces compteurs doivent permettre de faire des économies d'énergie. Et c'est comme ça que Enedis l'a vendu, et Ségolène Royal a également soutenu et fait la pub du Linky dans ce sens. Or, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des tests qui ont été faits, et ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 6 mois, en fait, les personnes ne réduisent plus leur consommation. Ils font des efforts, ils essayent de jouer le jeu les premiers mois, mais très vite, on revient à la consommation avant Linky. Et par contre, les Linky consomment de l'énergie, les concentrateurs également, et les serveurs de gestion de données également. En fait, sur l'ensemble de tout le réseau français, l'ADEME a estimé que ça consommait l'équivalent de la consommation annuelle de 500 000 foyers. Et il y a aussi le président de l'ADEME, Philippe Van de Maël, qui a dit au sujet du Linky que ce compteur n'a rien d'intelligent, il n'apporte rien en ce qui concerne la maîtrise de la demande d'électricité. Parce que l'idée, c'était que le Linky devait pouvoir permettre de lisser la production et d'éviter d'aller acheter de l'électricité, par exemple en Allemagne, où il est produit avec du pétrole ou du charbon. Un autre dernier point par rapport à ce côté environnement, c'est le côté obsolescence programmée du Linky. Les compteurs ont une durée de vie de 10 ans, de 15 ans, et les concentrateurs, 10 ans, ce qui fait que ça fait énormément en fait, de déchets électroniques qui vont s'ajouter à la quantité de déchets électroménagers qu'on produit déjà en France.
Par rapport aux compteurs actuels qui ont une durée de vie d'une cinquantaine d'années, si je ne m'abuse.
Au moins.
Oui. Au bas mot, oui, tout à fait. Et donc, ces 35 millions de compteurs qui actuellement fonctionnent très bien, on va les enlever et on va considérer donc qu'ils doivent être mis au rebut. Il n'y a pas de réemploi. C'est voilà. Bon, après, il y a effectivement peut-être une filière de recyclage, mais on est loin de l'esprit de la sobriété que nécessiterait notre époque.
Mais les filières de recyclage, peut-être en partie, mais certainement pas complètement, puisqu'il y a des déchets électriques et électroniques, j'ai des piles au lithium et du chlorure de thionyl dans ce... Donc tout ça, c'est effectivement des sources de pollution à venir et qui vont effectivement se renouveler dans les 10 ou 15 ans à venir. Alors, bon, puisqu'on y est, je veux dire, il faut aussi dire que tout ça, c'est une gabegie financière monstrueuse, quoi. Je veux dire, c'est sans doute, Enedis parle de 5 milliards qu'elle va essayer de financer avec le fait, effectivement, de supprimer des emplois, pour employer les choses par leur nom, mais on sait que c'est pas suffisant, et un monsieur très respectable dans le monde, qui s'appelle Patrick Kahar, inspecteur général des finances honoraires, a écrit récemment un article qui s'appelle « Linky, un gaspillage de 8 milliards ». Et évidemment, pour le consommateur, bah, ça va d'une manière ou d'une autre, ça va se traduire par une hausse de sa facture, puisque Enedis se paye sur ce qui s'appelle la TURP, c'est la partie qui concerne le financement de la distribution. Et soit la TURP va augmenter, soit quelque part ça va passer par nos impôts.
Alors le TURP, oui, enfin pardon, le TURP, il me semble, Patrick, tu me corriges ou... C'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Le TURP est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Ça n'apparaît pas, ne courez pas chercher vos factures, vous n'allez plus nous écouter. En fait, dans une facture, il y a trois parties. Vous avez la partie abonnement, qui est exprimée en kilovolt-ampère maintenant, en KVA. Ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure sans trop brouiller l'auditeur. On va il y a la consommation. Et il y a les taxes, sur lesquelles d'ailleurs on paye des TVA. Et dans les taxes, vous avez la CTA, vous avez les CSPE. Tout ça est issu du TURP, le tarif unique de régulation de redevance de prestation d'électricité, qui est un document qui est édité par la Commission de régulation d'énergie, parce que le marché de l'électricité est encadré en France. C'est un gros document dans lequel on trouve d'ailleurs des choses très intéressantes, en fouillant un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous regardez les consommations, il y a un point important, la production doit être égale à la consommation. Ça, on ne sait pas stocker de façon pérenne. Donc là, on a un souci effectivement pour les à-coups de consommation quand il y a des coups de froid et autres. Mais par contre, quand vous regardez vos factures, faites un bilan sur une dizaine d'années, vous verrez que vos consommations n'ont pas beaucoup augmenté, voire elles ont stagné. Les abonnements, bien sûr, ont augmenté et les taxes ont pris pratiquement entre 2000 et 2017. J'avais le chiffre tout à l'heure que je ne retrouve plus, mais c'est assez, c'est pratiquement peut-être 100 ou 50%. Enfin, c'est assez important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment, quand on vous dit que le compteur est gratuit, vous savez que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein, c'est un slogan qui est souvent utilisé. Donc aujourd'hui, le projet a été estimé par Enedis à 5 milliards. La Cour des comptes, qui n'est pas non plus une entité, partiale, a estimé plutôt le projet vers 7 milliards et demi. Et en fait, en remettant tout à plat avec les effets induits futurs, on serait plutôt entre 10 et 12 milliards. Aujourd'hui, en période un peu, disons, de vache maigre, avec 11 milliards en France, on doit pouvoir faire quelque chose pour un projet qui n'était pas, disons, économiquement valable, tel que l'avait défini, ou disons souhaitable, comme l'avait défini la directive européenne.
Bon, puisque le temps passe rapidement, je crois qu'il serait important de focaliser les raisons qui nous amènent, qui ont amené des milliers de personnes à commencer à s'opposer au programme Linky. Là, par exemple, en filigrane, parce que Patrick disait, on peut voir que aujourd'hui, Enedis peut couper à distance un foyer, un quartier, donc adapter le niveau de consommation à la rigidité du niveau de production en France. Donc, de fait, une centrale nucléaire ne se gère pas avec la même souplesse qu'une centrale à charbon ou au gaz, toutes polluantes qu'elles soient, mais ça oblige ou bien à importer de l'énergie de l'autre côté de la frontière, ou bien à couper les consommateurs aux heures de pointe. C'est dont Enedis ne va pas se priver, évidemment, aux besoins. Mais essayons de voir rapidement toutes les autres questions qui amènent à s'opposer à ce programme-là.
Non, mais on en a déjà vu pas mal. Hein. Les questions sanitaires, on en a parlé. La question de la pollution, donc on vient de l'évoquer. La question financière, des finances publiques et des finances pour le consommateur, on vient aussi de l'évoquer. Il faudrait quand même dire que les 20 000 postes de suppression d'emplois avec le passage à des emplois précaires dont se vante Enedis ne sont que ces emplois précaires de poseurs, ce sont des emplois en sous-traitance ou payés au lance-pierre, enfin bon, hein, 8 euros je crois le compteur posé. C'est encore, je veux dire, une opération qui ajoute à la situation économique désastreuse, si tu veux, sur le terme de l'emploi, sur le plan de l'emploi. Et d'ailleurs, au passage, je veux dire, si il y a tellement, parce qu'il faut quand même, on va l'évoquer juste après, mais s'il y a tellement de conflits aussi autour de la pause et des méthodes autoritaires de pause d'Enedis, c'est aussi parce qu'effectivement, Enedis fait le choix. Donc, bon, de faire ce travail en sous-traitance et dans des conditions qui sont assez désastreuses. Bon. Y a le fait aussi que l'absence... On va supprimer le dernier lien humain qu'il y a entre les services de l'énergie et le consommateur. Il n'y aura plus personne avec qui vous allez avoir l'occasion de parler puisqu'on supprime la relève. Et évidemment, le risque de coupure autoritaire va s'aggraver puisqu'on n'aura même plus besoin d'envoyer quelqu'un chez vous pour vous couper et à qui vous pourriez expliquer que non, écoutez, j'ai quand même quelques problèmes, essayez, comprenez-moi, etc. Donc, et puis, alors, il y a le problème d'atteinte à la vie privée parce que... et ça, c'est un des gros arguments sur lesquels on peut jouer sur le plan juridique, mais la collecte de... Il y a toute une bagarre autour de qu'est-ce que ce compteur Linky est capable de transmettre comme données et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce que si on sait tout de votre mode de consommation, vous n'avez pas forcément envie que tout ça atterrisse quelque part dans le cloud et à la disposition des grands opérateurs, qui pourrait aussi servir à des formes de contrôle social dans des situations critiques. Donc tout ça, ça fait partie des arguments. De toute manière, je veux dire, ces arguments sont largement exposés dans les différents sites des collectifs anti-Linky qui prolifèrent un peu partout. Et donc vous pouvez aller les lire, les voir de façon développée. Vas-y.
Oui, Emeline.
Oui, je voulais reprendre la parole parce que j'ai vu ces derniers temps, enfin, je crois que c'est ces derniers jours, des émissions, des sujets qui sont abordés sur le Linky maintenant via certains médias que je ne citerai pas, en disant mais ça c'est la propagande des anti-Linky, les récupérations de données, mais c'est faux, Linky ne sait pas que vous allumez votre télévision, etc. Or, on a quand même eu, je crois que c'est il y a 2 ans, si plus c'est 2015 ou 2016, on a même une vidéo où je crois que c'est Monsieur Monloubou, dites-moi si je me trompe.
Bernard Lassus, le directeur du programme.
C'est lui, exact, qui disait, mais on pourra voir quand vous allumez votre machine à laver, quand vous allumez votre télévision, et même quelle émission vous regardez à la télé. Et il était très fier de pouvoir nous annoncer tout ça. Et maintenant, on nous dit tout le contraire en disant que c'est nous qui racontons des bêtises. Bon, nous, on a la petite vidéo, on l'a bien conservée précieusement. Et bon, ben voilà, moi, je voudrais juste dire qu'il y a de la contre-propagande en nous faisant passer pour des menteurs. Et non, on a les preuves, voilà.
Il y a un aspect très important de la connaissance des habitudes de consommation, c'est que Enedis et les différents fournisseurs d'électricité pourront profiler les contrats, c'est-à-dire faire ce que vous voyez aujourd'hui avec la téléphonie mobile. Vous avez des contrats gold et vous avez des contrats basiques, ce qui fait que le jour où Enedis va décider de couper tel ou tel secteur de consommation, les contrats basiques seront coupés et les contrats gold seront maintenus, quelle que soit la situation. On pourra vous faire payer beaucoup plus si vous voulez obtenir toute une série d'avantages de continuité de votre contrat. Et puisque ces compteurs sont aussi très sensibles aux appels de puissance. Ça oblige déjà aujourd'hui à augmenter la puissance prévue par les contrats. Parce que si, quand vous allumez, par exemple, votre machine à laver, il y a un appel de puissance. Le compteur ne mesure pas seulement l'énergie que vous avez consommée, mais aussi l'appel que vous avez provoqué à ce moment-là. Il y a les disjoncteurs qui sautent une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Ça vous oblige, si vous voulez avoir une vie un peu tranquille chez vous, eh ben, à changer la puissance de votre contrat et donc à payer plus cher. Et là, on le constate déjà dans l'utilisation des contrats qui sont faits par Enedis. Donc, une augmentation de la facture d'électricité, y compris au niveau du contrat. Oui, là, je crois qu'on va se faire encore une petite pause musicale. Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est toujours Vive la Sociale. On discute du compteur Linky, on a abordé les questions qui concernent la dangerosité de ce compteur, les raisons pour s'y opposer, et on souligne justement le droit que tout le monde a de refuser l'installation de ce compteur que Enedis essaye d'imposer. Je crois que Emeline, tu voulais dire quelque chose là-dessus.
Oui, je voulais dire que bon, effectivement, Enedis a tendance à faire courir le bruit selon lequel le compteur, l'équipement du compteur serait obligatoire. C'est même repris par certaines presses aussi, certains médias. Or, d'une part, dans la législation, le texte que je vous cite donc c'est l'article R341-8 qui dit « D'ici au 31 décembre 2020, 80% au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs ». Je précise, donc c'est 80%, donc 80% des compteurs au moins devront être changés. Ça veut dire que bon, si on se met sur 80%, qu'il y en a 20% qui peuvent ne pas être changés. Donc voilà, il y a de 20% de refus qui peuvent être acceptés. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Ensuite, comme ça n'est pas su et que personne va jamais lire tous ces textes, là, il y a quand même une lettre de Valérie Rabault, qui était donc députée du Tarn, qui a écrit à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et qui rappelle « Je m'étonne qu'à ce stade du processus, aucune information ne soit explicitement communiquée en ce qui concerne la possibilité pour chaque consommateur de refuser l'installation du nouveau compteur. » Je pense que bon, il y en a d'autres courriers officiels qui rappellent cette possibilité de refuser le compteur. Maintenant, comment refuser le compteur? C'est ça qui est important de savoir. C'est d'abord en écrivant une lettre à Enedis, au siège social et régional. En recommander. Alors, il faut pas se tromper sur les adresses parce qu'ils ont tendance à changer les adresses et du coup à refuser les compteurs. Envoyer une copie au maire puisque quand même on n'a pas développé ce sujet-là, mais la commune est quand même propriétaire des compteurs et donc il serait bon de prévenir le maire que vous refusez ce compteur. Et ceci dit, pourtant, même en refusant les compteurs, quand les compteurs sont accessibles et ne sont pas à l'intérieur de votre domicile, malgré tout, ça ne suffit parfois pas à avoir son refus respecté et il faut prendre quelques précautions supplémentaires. Et donc, on pourrait encore développer. Là, je laisse la parole à Anne.
Le droit au refus, c'est un fait. Hein, c'est prouvé. Il y a maintes courriers officiels qui l'attestent, mais il faut le faire appliquer. Donc il faut s'organiser pour que ça soit mis en pratique. Et donc, là, on parle de l'expérience des différentes personnes, collectifs, individuellement et surtout collectivement, qui sont mis en œuvre pour refuser ces compteurs et pour s'opposer à sa pose avec en essayant de contrer les méthodes de voyous que parfois Enedis utilise. Voilà, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus?
Alors, au niveau du droit du refus, c'est toujours pareil. C'est une démarche individuelle, puisque chaque citoyen ou chaque propriétaire ou locataire d'une habitation est titulaire d'un abonnement d'énergie. Donc, c'est une démarche individuelle. Certes, donc ça concerne tout le monde, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Après, il y a deux cas. Soit vous êtes dans un habitat privé et votre compteur est de votre habitation. Donc là, vous êtes protégé par le droit pénal qui interdit à quiconque de rentrer dans votre habitation puisque vous avez violation de domicile. Et vous avez un autre cas où votre compteur est dans le bornage de votre maison ou dans votre copropriété. Et là, vous êtes dans une violation de propriété. Donc déjà, à partir du moment où vous n'avez pas donné, et c'est là-dessus que joue Enedis, si vous n'avez pas donné exprimé votre refus explicite, Enedis considère que c'est un accord implicite. Ce qui est en termes de droit commercial, comme le soulignait tout à l'heure Nicole, Enedis est une société anonyme, donc astreinte au droit du commerce, et ce que prétend Enedis est tout à fait illégal. Donc par précaution, et afin d'avoir la première pierre juridique qui permet de s'opposer après juridiquement à la pose du compteur ou de le faire déposer s'il a fait l'objet d'une pose forcée, c'est d'exprimer votre refus explicite. Un refus explicite, c'est un simple courrier en voie recommandée ou par sommation d'huissier, avec accusé réception pour la voie recommandée et l'exploit d'huissier, à Enedis, à une adresse avec des lettres type, une seule lettre suffit, une seule page suffit, pas à peine de vous justifier, vous exprimez votre droit du refus au titre de votre droit de liberté. Bon, il y a de nombreux modèles de lettres, mais ça peut être fait. Deuxième point, vous pouvez vous rapprocher effectivement des collectifs et associations qui sont aujourd'hui nombreux en France. Alors, il y a des chiffres qui varient. Actuellement, nous sommes en train d'en faire un recensement non exhaustif pour ne pas froisser personne. On en a authentifié à peu près plus de 300. Les chiffres sont un peu plus élevés, mais je ne sais pas, un collectif, ça commence à partir de 2. Mais il y a un mouvement vraiment, et c'est une première en France par rapport à ce sujet-là. Il y a énormément de personnes militantes, associatives, qui n'avaient rien à voir avec le Linky, qui ne sont pas des postes 68-arts réactionnaires, etc., des gens de comme vous et moi, monsieur tout le monde, qui sont investis là-dedans. Et c'est vraiment un mouvement de fronde qui aujourd'hui se cristallise au niveau des régions, des associations, et c'est ça, il faut que ce mouvement permet de vous porter de manière à ne pas vous retrouver seul. Donc je vous incite à aller sur les sites internet différents qui vont vous permettre de vous rapprocher auprès d'un collectif ou d'une association. Dernier point, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans les collectivités locales. Pourquoi? Parce que les collectivités locales sont propriétaires des installations de réseau de moyenne tension, les compteurs, les câbles d'amener, les boîtiers, les poteaux, etc. Quoi qu'on dise Enedis, ça reste la propriété des collectivités locales, même si elles ont délégué cette gestion à un syndicat des énergies. C'était rappelé par une juridiction administrative qui est la Cour d'appel administrative de Nancy récemment. À ce jour, il y a 490 communes en France qui ont pris des délibérations pour protéger leurs citoyens. La dernière en date étant, d'ailleurs ce soir, on l'a appris, une commune de l'île de France qui est Noisy-le-Sec. Pardon, Vitry-sur-Seine, c'est une voisine. voilà, Vitry-sur-Seine. Donc là aussi, vous pouvez, par votre action, avec l'appui des collectifs, faire valoir vos droits auprès du maire de votre commune, qui a un rôle essentiel dans ce dossier Linky, et puis vous adresser aux associations et collectifs pour vous associer, parce que plus on sera nombreux, l'union faisant la force, c'est quelque chose de connu, et les récentes actualités de l'Ouest, que je ne détaillerai pas, montrent que on peut parfois faire reculer de grands projets. C'est l'objet du Linky, ce projet-là ne peut pas aboutir dans les conditions actuelles, telles qu'il est présenté par Enedis.
Oui, moi je voudrais juste ajouter pourquoi tant de collectifs. Eh bien, c'est parce que justement ces droits au refus ne sont souvent, la plupart du temps, pas respectés quand les compteurs restent accessibles. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, si nos refus étaient individuels étaient respectés, il n'y aurait pas eu besoin d'autant de cohésion entre les personnes pour s'entraider et savoir mais comment fait-on pour voir nos refus respectés.
Alors. Le refus individuel, oui, c'est très important. Et j'ajouterais que quand on est en copropriété, il est important également que le compteur des parties communes ne soit pas un linky. Donc là, c'est en assemblée générale de copropriété qu'il faut faire porter à l'ordre du jour la question du refus pour le compteur des parties communes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il est souvent indiqué, effectivement, d'écrire à Enedis. Alors, chez Priartel, nous, ce que l'on préconise dans notre fronde, c'est de faire un courrier recommandé avec accusé de réception à Enedis siège social, hein, qui se trouve à Courbevoie, ainsi qu'à Enedis agence locale, et de surcroît envoyer un courrier, d'envoyer copie en fait de ce courrier au maire et au syndicat d'énergie. Ça, c'est important, parce qu'effectivement, les communes sont propriétaires des compteurs, mais la plupart du temps, elles ont transféré leurs compétences en matière d'énergie à un syndicat d'électricité. Pour la région, enfin pour ce qui est de l'Île-de-France, par exemple, 83 communes ont transféré leurs compétences au CIPEREC. Et donc, il est important que ce mouvement de la population remonte jusqu'au CIPEREC. Voilà, et puis pour finir, les collectivités locales, certaines, donc effectivement, comme le disait Patrick, se sont exprimées ou ont tenté de faire quelque chose et ont essuyé à chaque fois beaucoup de difficultés, c'est-à-dire effectivement un recours au tribunal administratif fait par le préfet, par Enedis, ont été confrontés à beaucoup d'opposition, mais on peut saluer, on doit saluer cette prise de responsabilité des communes. Là, c'est un petit message à l'ensemble des communes qui ne se sont pas encore positionnées sur la question. D'abord, peut-être que certaines communes ne se sont pas positionnées parce qu'elles n'ont pas encore été confrontées à la question. Puisqu'effectivement, Nicole le disait au début, le déploiement du Linky, c'est jusqu'en 2021. En Île-de-France, vous avez des communes qui ont déjà eu le Linky déployé, et par ailleurs, vous avez des communes qui ne seront confrontées à la problématique en 2021. Donc, bien sûr, ce n'est pas propice à un mouvement de cohésion simultanée. Donc, il faut être vigilant parce que dans les luttes sociales, il faut que tout le monde se mobilise en même temps. Donc, là, j'appelle les auditeurs, même s'ils ne sont pas tout de suite concernés, c'est très important à ce que chacun se prenne en charge dès maintenant. Et puis, c'est un vrai sujet politique. Parce que là, on parle effectivement de centaines de collectifs qui se mobilisent en France, qui tous les jours, il y a de nouveaux collectifs. Sur ma commune, là, il y en a un qui est en train de se constituer. Et les élus doivent comprendre que c'est un sujet politique, parce que ce compteur, ce n'est pas qu'un aspect technique, ça préfigure donc une certaine société, la société connectée. Et il faut comprendre, il faut entendre que tout le monde n'a pas envie d'aller vers cette société-là. Voilà.
Oui, moi je voulais dire que... on est quand même engagé dans quelque chose qui est une espèce de guerre ou de guérilla, ou je ne sais pas, parce que Enedis est en train de... est dans une position qui commence à devenir aussi compliquée pour elle. On a l'impression que sa position vis-à-vis des refus commence à évoluer. Et elle-même ne respecte pas vraiment son calendrier de pause, celle qu'elle a affiché. On a l'impression qu'elle est en train d'essayer de choisir une espèce de stratégie d'encerclement. Nous, en tout cas, sur la commune de Noisy-le-Sec, on a le sentiment qu'elle choisit les quartiers périphériques, ceux qui sont le moins organisés et peut-être le moins en mesure de s'organiser pour essayer de s'imposer. Et Mais nous, en face, je veux dire, c'est important qu'effectivement, la pression monte. Effectivement, sans attendre qu'on reçoive la lettre, il faut s'organiser, il faut se manifester. Et je voudrais dire que Enedis réagit aussi en faisant sa propagande. Et ça est un indice du fait qu'elle est en position un peu délicate. Et que elle fait sa propagande, par exemple, au Salon de la copropriété. Elle a organisé une petite formation qui s'appelle Enedis, comment les nouveaux compteurs d'électricité peuvent contribuer à mieux maîtriser sa consommation d'électricité. Hein. Là, je peux citer quelques lignes du Monde qui sont parues dans le mois de juin, qui donnent un peu une idée du climat maintenant qui est en train de se développer. Je cite donc Le Monde, c'est que l'entreprise Enedis veut freiner au maximum l'action de ses collectifs qui œuvrent à la perte de Linky. Selon ses détracteurs, c'est en vue d'éviter la constitution d'un front unique. Elle avance en tâche de léopard, c'est-à-dire municipalité par municipalité, sans cohérence territoriale. On peut être concerné cette année par Linky sur sa commune, alors que celle voisine ne sera dotée qu'en 2020.
Oui, moi je prends la parole, hein. J'en ai le collectif Stop Linky Nord-Essonne, et là je rebondis sur ce que tu viens de dire pour dire d'où l'intérêt d'avoir des grands collectifs. Parce que le problème qui se passe avec les petits collectifs, c'est que quand le déploiement a lieu sur la commune, une fois le déploiement terminé, parce qu'ils ont lieu quand même, pour ce collectif qui est juste sur la commune, la bataille s'arrête. Mais après, ce sont les communes avoisinantes qui sont touchées. Et le problème, c'est qu'il faut que l'expérience des premières communes qui ont été occupées puisse bénéficier aux autres. Et mon avis personnel, c'est qu'il y a trop de petits collectifs, il faut penser aux autres. Il faut que l'expérience des première pause bénéficie aux autres communes. Voilà, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est, je crois, pour la raison pour laquelle nous, sur Nord-Essonne, en fait, aujourd'hui, on est même sollicité par des gens qui sont même pas du département, mais qui sont d'ailleurs en France, y compris les Yvelines, par exemple, et le Meurthe-et-Moselle, etc.
Oui, effectivement. Bon, le combat commence. Enfin, il a déjà commencé, mais il est en train de, ce que je disais tout à l'heure en préambule aussi, il se cristallise. Les collectifs se regroupent ensemble en intercollectifs locaux, régionaux, et il y a des réseaux d'échange au niveau national. Donc, un point aussi, cette année, d'après nos approches et nos informations, 2018 devait être une année qui va être judiciarisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était pour l'instant sur la défensive. Il est temps de passer à l'offensive. Pour cela, on est obligé de s'appuyer sur des professionnels, disons, du droit. Encore une fois, les collectifs ne vont pas se mettre hors la loi, comme le préconise par contre Enedis avec ses fameuses fiches qui incitent aux exactions des poseurs en violentant les personnes, en violentant les propriétés privées, qui ont fait l'objet de nombreux procès et condamnations d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, il faut faire l'appel à des professionnels. Aujourd'hui, vous avez en France quelque chose qui s'appelle l'action de classe, l'action de groupe, hein, que les anglo-saxons appellent class action, qui permet à un certain nombre de personnes plaignantes de se regrouper à travers des cabinets d'avocats spécialisés, alors il y en a plusieurs en France, et à partir d'un certain, avec une contribution bien sûr, mais qui est possible, alors qu'en individuel, une action, imaginez bien un simple citoyen contre Enedis, c'est même pas David contre Goliath, c'est le tank contre la puce. Donc en action collective, juridique, il y a des choses à faire. Un cabinet comme avec une action comme SMA et SmartCab, aujourd'hui à peu près 760 plaignants, sachant que tout à l'heure ce que disait Nicole, s'il y a 7,5 millions de compteurs posés, ça ne veut pas dire qu'il y a 7,5 millions de personnes qui étaient consentantes. Donc même si votre compteur était posé, rien n'est perdu, vous pouvez vous engager auprès des collectifs pour mener une bataille et le faire supprimer parce que, pourquoi ? Simplement, vous n'avez jamais signé de contrat d'acceptation pour ce compteur. Et ça, c'est également, on revient au droit fondamental de tout à l'heure du Code de commerce.
Moi, j'aurais voulu juste rappeler une chose. Le droit au refus, est vrai, est un droit individuel. Mais il est très important qu'il soit exercé d'une façon collective. Pour des raisons pratiques, parce que les compteurs posés n'ont pas de filtre, donc vous allez forcément bénéficier des compteurs qui sont posés chez vos voisins, même si chez vous, vous êtes arrivé à ne pas le faire poser. Donc c'est très important que les voisins soient impliqués dans cette démarche. Et d'autre part, il y a aussi des possibilités de reconstituer un minimum d'action collective sur les lieux où les gens vivent. Un des problèmes qu'on a rencontré dans l'action d'information, par exemple, sur les marchés, dans les bars, dans les cafés, etc., est que la plupart des gens, ou bien sont résignés, ou bien ils nous disent « Ah oui, mes voisins, c'est difficile, j'arrive pas à parler avec eux ». Là, vous avez la possibilité de parler avec vos voisins parce que vous avez un intérêt commun à vous opposer à quelque chose. On vient vous chercher chez vous, on vous apporte chez vous du cancer à domicile. Donc, vous avez des fortes raisons de vous opposer. D'autre part, bon, on n'a pas le temps pour d'évoquer toutes les initiatives diverses et variées qui ont été prises ou qui sont en passe d'être prises, mais je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs pétitions au niveau local ou national, des pétitions locales qui s'adressent essentiellement aux maires pour leur demander d'interdire sur le territoire de leur commune la pose des compteurs. Et comme ce sont les mairies qui sont les propriétaires de ces installations, ben, ils sont les premiers concernés. Ensuite, ben, il y a plusieurs initiatives juridiques. Là, on a fait allusion à quelques-unes, celle de l'ex-Precia, MySmartCab, les initiatives du cabinet Artemisia, certaines tentatives auprès aussi bien du tribunal des Manterres pour déposer un compteur. Il y a eu aussi l'audience du 30 novembre dernier où il y a eu un avis contraire du Conseil d'État. Mais il y a des situations où les préfets attaquent devant la justice administrative les délibérations ou les arrêtés des maires, mais il faut souligner que ces arrêtés ne sont pas cassés par le simple fait que les préfets les attaquent. Ils sont tout simplement portés devant la justice administrative qui va ensuite statuer, et ça fait partie de la guérilla juridique à laquelle on a fait allusion jusque-là.
Oui, à ce petit détail près que les 10 ne respectent pas non plus la volonté des communes. Parce que si les communes ne se donnent pas les moyens de faire appliquer leurs arrêtés, eh ben, Enedis passe en force. Hein. Et ça aussi, c'est les limites aussi de la bataille juridique. Ces batailles doivent. C'est pas parce que votre commune aura pris un arrêté qu'il faut baisser la garde. Parce que Enedis continue à passer en force. Il y a Anne.
Oui, justement, c'est ce qui se passe sur ma commune. Ce serait justement le danger. C'est-à-dire de croire que le maire a pris un arrêté et donc on peut dormir sur ses deux oreilles. Non. Sur ma commune, le maire a pris un arrêté après avoir interpellé la CNIL sur la question des données individuelles et de la protection de ces données, et l'arrêté n'est pas du tout respecté. Et quand une personne n'est pas informée, quand il y a un défaut d'information, quand quelqu'un ne sait même pas ce qu'est le Linky et que le prestataire se présente pour installer le compteur, eh bien, si la personne ne refuse pas, si la personne n'appelle pas le maire à la rescousse, donc si la personne est consentante par défaut d'information, eh bien, le maire ne peut pas s'interposer. C'est difficile de s'interposer dans une relation contractuelle. Donc, d'une part, voilà, il ne faut pas se dire que le maire s'est positionné et donc qu'on n'a rien à faire. Il faut que chacun refuse. Et puis, il ne faut pas croire non plus que les communes ont toute latitude sur cette question-là. Les maires doivent retrouver un pouvoir d'agir. Je parlais tout à l'heure de sujets politiques. Et c'est vraiment politiquement, parce que là, il ne faut pas s'arrêter au droit en se retranchant derrière une directive européenne, une loi de transition énergétique. Il faut en faire un sujet politique et une question qui doit être posée au niveau du syndicat d'énergie.
Oui, moi, je voulais reprendre la parole et me replacer sur le terrain, puisque c'est là-dessus que moi, j'ai beaucoup plus travaillé, pour informer les auditeurs qu'ils peuvent aussi être à l'initiative de mouvements chez eux. Et c'est important de le savoir. On se croit seul et en fait, on n'est pas du tout seul. J'aurais juste donné quelques petites idées pour pouvoir faire bouger les choses. Interpeller le maire, bien sûr, poser des questions au conseil municipal, intervenir dans les réunions de quartier pour poser des questions, pour alerter les personnes qui souvent ne sont pas au courant. Éventuellement, si vous pouvez produire quelques tracts. Souvent, si vous n'avez pas été écouté par le maire, vous pouvez vous adresser à l'opposition. Souvent, vous trouverez de l'aide dans l'opposition et beaucoup plus d'écoute à l'opposition si vous n'avez pas eu un maire à l'écoute. Et ça, souvent, dans ce cas-là, en tout cas, moi, tu n'es peut-être pas d'accord, toi, Anne, mais en tout cas, pour nous, ça a été très porteur, puisque dans ce cas-là, on m'a dit, mais tu sais, tu n'es pas toute seule, il y a d'autres qui sont opposés, pas pour les mêmes raisons. Et souvent, ils servent d'intermédiaire pour réunir, justement, les opposants. En tout cas, notre mouvement, nous, a pris de l'ampleur comme cela. Et après, donc, organiser des réunions soi-même sur la commune pour informer les personnes, puisque non seulement on n'est pas informé, mais quand on a des informations, souvent, elles sont fausses. Donc, il est temps de rétablir la vérité. Et je vais juste encore une autre chose à ajouter dans le cas des refus. On a dit il faut faire des lettres de refus. Comme on a insisté tout à l'heure pour le dire, les refus ne sont pas toujours respectés, en particulier quand les compteurs sont accessibles. Mais les compteurs, vous pouvez en bloquer l'accès. Moi, je voulais terminer là-dessus. On peut bloquer l'accès et normalement, Enedis n'arrache plus tous ces compteurs bloqués puisque c'est pour faire respecter ces refus.
En une minute, effectivement, le soutien des maires est primordial. Je vais reprendre également un exemple local. J'aime pas trop parler en particulier. L'association ARP travaille en étroite collaboration avec la mairie de Hyères, qui n'a pas hésité, un, à effectivement prendre un arrêté assez tôt sur l'interdiction de poser compteur, deux, d'envoyer des lettres individuelles aux citoyens pour leur exprimer la possibilité de refuser, et trois, dans le journal de la commune, d'exprimer qu'en cas de poste forcé, il fallait requérir à la loi. Et le maire a exactement à ce niveau-là fait exercer son droit de police, qu'il a le droit de faire, qu'il a le devoir de faire, et ça a porté, puisque hier, il y a eu 15 déposes et repostes forcés. Moi, je vais juste terminer, ce sera ma conclusion, c'est de citer tout simplement une phrase qui est la Charte de l'environnement de droit constitutionnel de 2004, donc droit français. Article 1, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Je pense que cette phrase résume à elle seule les possibilités que l'on a de refuser ce compteur et de continuer à vivre sereinement.
Bon, je crois que pour finir, il faut quand même donner un certain nombre d'éléments très précis. On a fait allusion à trouver des lettres de refus en particulier. Vous allez sur le site du cabinet Artemisia, par exemple, sur le site de
Priartem également.
De Priartem. Bon. Moi, je recommanderais un site que je trouve très bien fait parce qu'il est bien structuré et on trouve beaucoup de liens vers d'autres sites qui s'appelle Stoplinky Vanves, comme la ville de Vanves, V-A-N-V-E-S. Un site de référence, c'est aussi Refus Gaspard Linky, qui est animé par Stéphane Mom. Et vous avez une vidéo, éventuellement la vidéo pour tous sur YouTube avec Stéphane Lhomme, justement. La fameuse action collective dont Patrick parlait, donc je rappelle, on peut la rejoindre individuellement, apporter sa contribution financière pour qu'elle puisse, elle soit possible. Ça s'appelle, la plateforme s'appelle My Smart Cab, en anglais MY Smart Cab CAB. Je crois que voilà. Oui, tu veux. Comment ? Ah oui, non, je voulais dire bien sûr que pour ceux qui se sentent un peu perdus et qui veulent rencontrer d'autres gens, il y a une coordination qui est en train de se mettre, qui s'est mise en place déjà, avec une rencontre mensuelle, le premier lundi de chaque mois, à la Bourse du Travail de Paris, rue du Château d'Eau, vous avez une réunion qui est d'une coordination Île-de-France où vous pourrez rencontrer justement différents collectifs qui viennent échanger des informations et qui vous mettront au courant. C'est peut-être le premier pas que vous pouvez faire si vous êtes complètement isolé. Voilà. Merci beaucoup, participants. Nous cédons la place à Zoom Écologie.